Les actes de consommation et la vie émotionnelle s'entrelacent désormais jusqu'à devenir inséparables, jusqu'à se définir et s'autoriser mutuellement. Les marchandises facilitent l'expression des émotions et aident à en faire l'expérience, et les émotions sont converties en marchandises. Eva Illouz est ce soir notre invitée à l'occasion de la publication de son nouvel ouvrage intitulé « Les marchandises émotionnelles ». Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec Alain Souchon, « On s'aime pas ».
Tu vois, on danse, le corps on le balance, on se touche, on s'embrasse la bouche, tiens même, v'là qu'on se dit qu'on s'aime, mais c'est que de la crème, de la pommade rose, pour cacher les choses. Plaisir pour pas tout seul dormir. Tu vois pas qu'on s'aime pas. Tu vois pas qu'on s'aime pas. On s'aime pas. Alors là t'es seul. Ça te pique dans ton œil. Parler de faire guili-guili, mais pomme, t'es là pour personne. Et c'est tout le monde pareil, retourne dans ta piôle. Même si tu miaules, le monde s'en fout. Le monde s'en fout. Tu vois pas qu'on s'aime pas. On s'aime pas, fil, fil, mur. T'as pas vu le fil dur, marqué, privé. Ici c'est chez nous, pas pour vous, rien que pour nous. Si c'est à tout le monde chez nous. Attention aux autres. Tu vois pas qu'on s'aime pas. Tu vois pas qu'on s'aime pas. On s'aime pas. Pam pam pam. Y a la guerre tout le temps. On fait le civil. On s'envoie les missiles, on se refait le coup du calumet de la paix. Mais c'est du cirage de la gomina pour cacher le cracra et zoom zoom télé. Toutes ces belles photos saignées. Tu vois pas qu'on s'aime pas. S'aime pas. Tu vois pas qu'on s'aime pas. Tu vois pas qu'on s'aime pas. On s'aime pas. On s'aime pas. On s'aime pas. On s'aime pas. We'll be right back.
De l'amour, vous vous occupez et vous vous préoccupez depuis déjà pas mal de temps, Eva Illouz. Vous êtes une universitaire internationalement reconnue pour ses travaux sur l'amour, l'amour romantique, l'amour capitaliste, l'amour devenu une sorte de produit de consommation capitalistique. Et vous, en tant qu'enfant, avez-vous eu la sensation d'être aimé par vos parents ?
Ah oui. L'amour ne faisait pas problème. C'était plutôt la discipline qui faisait problème parce que j'étais une enfant rebelle. Mais l'amour était un socle, le sol sur lequel je marchais de façon évidente.
Et pour vous, ça a été important ce socle d'amour que vous ont prodigué vos parents?
Je pense que c'est important pour tout le monde. C'est ce qui nous permet d'avoir confiance dans la vie. Je pense que j'ai approché la vie avec la confiance que nos parents nous donnent, oui.
Et le premier amour?
Le premier amour, qu'est-ce que vous voulez savoir?
Eh ben, vous qui êtes une spécialiste de l'amour, est-ce qu'il était heureux, malheureux?
Oh ben, le premier amour, par définition, s'il n'est plus actuel, il est forcément à un moment donné ou à un autre malheureux. Mais si vous me posez la question de savoir quels sont les souvenirs que j'ai de ma vie amoureuse, je m'attendais pas à cette question, mais je vais quand même y répondre. Je me souviens qu'à 17 ans, j'avais 17 ans, oui, il avait 19 ans, je crois, il y avait un garçon qui m'intéressait, qui était étudiant à Polytechnique, qui m'avait dit que je ne l'intéressais pas parce que j'étais, disait-il, trop intellectuelle et intelligente pour lui. Avec le recul du temps, j'ai compris que, en fait, on ne faisait tous les deux que jouer et rejouer un scénario qui était assez connu, malheureusement, des hommes et des femmes. Sur le coup, j'avais pris ça comme une marque d'infamie, le fait d'être intelligente et intellectuelle. J'ai porté ça comme une infamie pendant longtemps. Et aujourd'hui, je pense par exemple à ce qu'on appelle en anglais les leftover women en Chine. Donc ces femmes qui sont des femmes des restes, on les appelle des restes, et qui ne sont pas mariées, souvent parce qu'elles ont un doctorat. Parce qu'elles ont un doctorat, les hommes chinois ne veulent pas de ces femmes. Si eux-mêmes ne sont pas à niveau social et économique égal à ces femmes. J'ai vécu, et je ne suis pas du tout la seule, je pense que beaucoup de femmes vivent dans leur expérience particulière et privée, vivent et revivent et jouent et rejouent ces scénarios sociaux et collectifs. Et je dirais que peut-être ce qui m'a attirée vers la sociologie et en particulier vers la sociologie de l'amour, c'était la tentative de comprendre qu'est-ce qui était en jeu dans ces blessures. Parce qu'il y a beaucoup de blessures. Je pense que la sociologie, certaines sociologies s'intéressent d'abord et avant tout à la blessure, d'ordre différent. Et moi, ce qui m'a intéressée, c'était la blessure psychique, la blessure narcissique et la blessure amoureuse.
Vous avez une double culture, Eva Illouz. Vous avez été éduquée en France, mais vous, très vite, vous êtes partie en Israël. Vous parlez quatre langues. Est-ce que cette universalité qui vous permet le comparatisme entre différentes cultures vous aide à réfléchir pour énoncer des nouvelles idées?
C'est un peu plus compliqué. Je viens d'une famille d'Afrique du Nord. J'ai vécu en France, effectivement. Ensuite, je suis partie aux États-Unis faire mes études. J'ai vécu donc 9 ans pour faire un doctorat. Et des États-Unis, je suis allée en Israël. Donc, je dirais que j'ai développé trois cultures. Je crois que je connais bien trois cultures. J'ai fait de ma capacité à étrangère et à être étrangère à toutes ces cultures, j'en ai fait ma profession. Puisque la profession de sociologue, je pense que c'est une profession, c'est l'art de rester étranger à ce qui est familier. Et c'est de nous défamiliariser avec le familier. Donc j'ai accumulé les identités, les cultures, et je dirais que ça m'a permis, et c'est en même temps une malédiction et une bénédiction, et ça me permet d'être toujours ailleurs. En France, je suis juive. En Israël, je suis cosmopolite et universaliste. Aux États-Unis, je suis européenne. En Allemagne, où je suis beaucoup, je suis française. Donc pour moi, l'identité, c'est toujours Être ailleurs, être dans le négatif. Et c'est pour ça peut-être aussi que je suis méfiante vis-à-vis des identités, vis-à-vis des gens qui se réclament d'identités très solides et très profondes, parce que pour moi, l'identité, c'est forcément situationnel. C'est forcément une réponse à une situation et un contexte.
Ce n'est pas pour autant que vous avancez masqué, à la fois comme individu et comme intellectuel.
Ah ben on peut pas faire ce travail, je pense, si on avance masqué, en tout, ou alors on peut pas le faire bien. Alors je me masque dans mon travail d'universitaire, puisqu'on peut pas savoir de mon travail quelle est ma vie amoureuse.
Absolument, je confirme.
J'avance moins masqué dans la sphère publique en Israël, où je prends souvent position, des positions politiques.
Mais on va parler d'amour, puisque ce dernier livre, Les marchandises émotionnelles, est important à plus d'un titre, parce qu'il nous fait réfléchir sur le monde dans lequel nous vivons, dans ce capitalisme, dans ce néolibéralisme, où nous pensons un peu tous, sans doute de manière trop optimiste, que l'intimité, cette sphère de l'intimité, eh bien, nous appartient en propre. Pas du tout, dites-vous, après avoir effectué un important travail par de nombreux sociologues. Je ne sais pas si vous avez une définition de l'amour, je ne sais pas si vous avez une multiplicité de définitions de l'amour, je ne sais pas si vous croyez à l'amour, mais ce que je peux vous proposer, c'est d'écouter la voix d'Albert Cohen. Vous avouerez que c'est un des spécialistes de l'amour. Il va parler de l'amour vrai à l'occasion de la publication de son livre « Belle du Seigneur ». C'est une archive INA, 1968, la voix d'Albert Cohen.
L'amour vrai, et cet amour vrai, ce n'est pas un amour uniquement axé sur la chair. L'amour vrai, c'est en fin de compte l'amour nuptial, c'est-à-dire deux êtres qui ne sont pas uniquement réunis par les délices si vite épuisées de l'union physique, mais par un but commun, que ce but commun soit l'enfant, ou qu'il soit une œuvre à accomplir, aussi modeste, aussi humble puisse-t-elle être. Bref, pour moi, l'amour est celui de deux êtres qui se réjouissent de vieillir ensemble, entre autres.
Partagez-vous l'opinion d'Albert Cohen sur sa définition de l'amour? C'était en 68, hein, nous sommes en 2019.
Oui, alors 68, c'est effectivement l'année où Belle du Seigneur paraît.
C'est un livre qui vous a ébloui et ému, Eva Illouz ?
Alors oui, évidemment, et il m'a beaucoup influencé. Je dirais qu'il y a deux livres qui m'ont influencé dans mon parcours sociologique, parce que l'amour n'était pas du tout un sujet sociologique. On s'intéressait par exemple aux inégalités et à la pauvreté. Ça, ce sont les sujets sociologiques par excellence. Mais l'amour était vu comme le domaine du privé et du personnel. Et l'enjeu de ma recherche a été de montrer que les sentiments, en particulier le sentiment amoureux qui jouit d'une sorte d'immunité, puisque quand on est amoureux, on a le sentiment que on répète des gestes immémoriaux et qu'on répète des sentiments immémoriaux et universels. Donc pour moi, l'enjeu, ça a été de montrer que ce sentiment-là est aussi influencé par des structures collectives. Albert Cohen, alors, curieusement, m'a beaucoup influencé. Il y a deux romans qui m'ont beaucoup influencé, c'est Madame Bovary et Belle du Seigneur, justement. Donc vous avez très bien choisi, parce que et ces deux romans m'ont beaucoup influencé, parce que donc Emma Bovary est une femme qui a un destin tragique. Elle est mariée à un homme dont elle n'est pas amoureuse, parce qu'elle a lu beaucoup de romans d'amour quand elle était jeune. Donc c'est celle qui est incapable d'accéder à la mort vraie d'Albert Cohen. Elle a lu beaucoup de romans à l'eau de rose, des romans romantiques, et elle cherche l'amour dans sa vie. Et c'est un amour qui, en quelque sorte, a presque un statut de religion pour elle. Et on peut comprendre ça. Pour les femmes, l'amour a presque été une religion, parce que ça a été, historiquement et culturellement et socialement, la seule façon que les femmes ont eue de surmonter l'état de soumission dans lequel elles étaient réduites. Donc Emma cherche l'amour, le grand amour qui va la sauver de son destin médiocre, mais elle va aussi le faire en s'appropriant des biens de consommation. Elle va s'acheter des robes, elle va s'acheter des colis fichés, ce qui va faire qu'elle va être très endettée. Et à la fin, quand elle va se suicider, c'est autant à cause de ses amours malheureux que à cause de la dette à l'heureux qu'elle ne peut pas rendre. Donc, on voit bien ici comment l'amour est inscrit dans des structures sociales et économiques. Et de chez Albert Cohen, alors j'ai pris autre chose. Si Emma Bovary nous donne, nous fait entreapercevoir l'état d'abjection et l'état de soumission dans lequel les femmes vivent, Albert Cohen dit autre chose. Il dit que l'amour tel qu'on le conçoit ordinairement, c'est l'amour du pouvoir. C'est ça qui est en jeu entre Ariane et Solal, puisque dans cette magnifique scène, la première scène de Belle du Seigneur, quand Solal veut séduire Ariane déguisée en vieillard édenté, il veut qu'elle rédime l'humanité du pouvoir de la chair. Et il lui dit, je te propose finalement de rédimer l'humanité. Je suis là, vieillard, je t'aime comme personne ne t'aimera. Et Ariane refuse, elle refuse cette rédemption personnelle et collective. Et donc, il va l'aimer comme tous les hommes aiment les femmes. Et elle sera condamnée, elle, à l'aimer comme toutes les femmes aiment les hommes. C'est-à-dire dans une structure de pouvoir. Alors, je ne sais pas si Albert Cohen aurait beaucoup aimé mes analyses sociologiques. Mais pour moi, il est clair qu'il pose déjà les jalons d'une analyse sociologique de l'amour.
Est-ce l'intérêt que vous avez pour le statut des femmes qui vous a amené à travailler en profondeur avec une mise en perspective critique sur l'amour?
Alors, étrangement ou pas, je suis arrivée au féminisme assez tard. Je ne suis pas arrivée au féminisme par la théorie, mais par la vie. Et je dirais que dans mon premier travail, ce qui m'a plus intéressée, c'est le lien entre les structures économiques et en particulier la culture de consommation et le capitalisme de consommation et l'amour. Et en particulier la façon dont on observe au début du XXe siècle une transformation très importante des pratiques amoureuses. On passe de pratiques où les hommes et les femmes se rencontraient très souvent dans le cadre de la maison, de la femme, où on se courtise en s'écrivant des poèmes ou en jouant de la musique ensemble, donc je parle des classes moyennes, à des pratiques amoureuses où on sort, alors je parle des États-Unis, on va sortir ensemble vers les années 20, vers les années 30 et on va consommer ensemble un bien de loisir. Ça va être les cinémas, ça va être les danses, un peu plus tard on va aller danser ensemble, ça va être un peu plus tard les restaurants. Donc c'est ce passage qui m'a intéressée, c'est la façon dont les pratiques amoureuses deviennent définies véritablement, se redéfinissent véritablement par la capacité de sortir et de consommer ensemble des biens de consommation. Et on voit, à partir du début du XXe siècle, l'émergence d'une nouvelle catégorie culturelle qui est le moment romantique. Alors, qu'est-ce que c'est un moment romantique? Je fais une recherche avec des enfants de 8 ans. Donc des enfants qui n'ont pas d'expérience amoureuse ou romantique, et je leur demande, est-ce que vous pouvez me décrire un dîner romantique? Et des enfants de 8 ans ont un script culturel très clair de ce que c'est qu'un moment romantique, un dîner romantique. Alors ils répondent par exemple que on est dans un restaurant français, donc cher pour des Américains, et il y a des nappes blanches, il y a des fleurs, il y a des violons. C'était important de prendre un enfant parce que un enfant n'est exposé qu'à une image culturelle. Donc ce qui m'intéresse, c'est ce type d'image qui émerge à partir du début du XXe siècle et qui sont codifiées par les films, par la publicité et qui contribuent fortement à naturaliser, si vous voulez, les biens de consommation de loisirs.
Est-ce que cela veut dire, Eva Illouz, que au fur et à mesure que la définition de l'amour s'extériorise, c'est-à-dire qu'elle quitte la sphère intime qui ne concerne que deux individus, de même sexe ou de sexe différent, à partir du moment où l'amour arrive dans la structure sociale, est-ce que le capitalisme a essayé progressivement de profiter de l'amour pour commercialiser l'idée même de l'amour?
Oui, alors l'amour ne quitte jamais la structure sociale.
Dès le début,
il la reflète
dès
toujours.
Dès la naissance de l'amour, on est des individus mus par nos structures sociales individuelles,
oui,
selon vous.
Oui, oui, oui.
On croit être le seul, l'unique,
oui,
mais non.
Oui, même quand l'amour est interdit, par exemple, même quand on vit dans une société où il y a des mariages de raison, l'amour, la façon même dont le désir sexuel et amoureux se vit est structuré par ces interdits, par ces normes. Dans ce sens-là, on peut dire que l'amour est toujours pris dans de la norme et dans des règles sociales.
Oui, mais on nous apprend dans la culture populaire et dans la culture savante aussi, que l'amour est le seul sentiment qui permette de transgresser justement à la fois l'idée des classes sociales, l'idée des générations, atteindre l'absolu, que c'est justement l'espace de l'infini et de tous nos possibles. Or, ce n'est pas vrai.
Alors, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, je n'ai pas envie de m'inscrire contre toute une tradition philosophique et poétique, mais je dirais qu'une partie... Une partie de l'amour reflète notre position sociale. En général, on va choisir quelqu'un qui correspond à notre identité sociale. Alors aujourd'hui, on va choisir quelqu'un qui partage nos goûts culturels. On sait par exemple que les gens qui ont un niveau d'éducation élevé vont avoir tendance à choisir un partenaire pour ces raisons-là. On sait aussi que les femmes, très souvent, choisissent un partenaire, un homme, qui va pouvoir subvenir à leurs besoins économiques. Donc si vous voulez, on ne peut jamais vraiment différencier ce qui est de l'ordre strictement émotionnel et ce qui est de l'ordre social. Les deux sont toujours étroitement imbriqués. Et par contre, on a à notre disposition tout un discours normatif très fort qui veut qu'on sépare l'argent et l'intérêt d'un côté des sentiments de l'autre. Or, très souvent, quand les deux sont imbriqués, c'est ce qui fait que le désir va être encore plus fort.
Je vous propose d'écouter un orfèvre de l'amour. Vous savez que son livre continue à être réédité en livre de poche et qu'il est toujours et encore, et on s'en réjouit, acheté par les plus jeunes, aujourd'hui, en tout cas en France. Je veux parler de Roland Barthes qui va évoquer son livre qui a eu un succès immense qui s'intitule « Fragments d'un discours amoureux ». C'est une archive INA de 1977.
Personnellement, en tout cas, en ce qui concerne ce livre, des fragments d'un discours amoureux, ce que j'ai voulu, à tort ou à raison, mais c'était, disons, un propos, je dirais presque entêté chez moi, je n'ai pas voulu, à aucun moment et à aucun prix, construire ce que j'appellerais une histoire d'amour. Parce que ce que j'ai voulu restituer, ou simuler, car c'est un livre de simulation, c'est un livre qui simule un discours, j'ai voulu restituer ou simuler l'espèce de désordre de langage qui se passe, qui passe dans la tête d'un sujet amoureux. Et pour ne pas avoir à décider que j'emploie le mot de sujet, si vous voulez, le sujet amoureux, au fond, ne peut donner lui-même absolument aucun sens, il ne peut pas donner le sens d'un destin à ce qu'il vit. Bien sûr, une fois que l'épisode amoureux est fini, il est très possible de le construire rétroactivement comme un destin. Mais quand on est dedans, on est plongé dans une sorte de désordre profond de ces sortes de bouffées d'épisodes de langage qui vous passent dans la tête, et par là même, le roman est une sorte de construction a posteriori qui falsifie cette sorte de désordre extrêmement vif, qui fait d'ailleurs que couramment, enfin, le sentiment populaire depuis très longtemps parle de l'amoureux comme d'un fou. Eh bien, est-ce qu'un fou écrirait des romans ? J'en suis pas très sûr.
Alors, nous venons d'entendre Roland Barthes évoquer ces fragments d'un discours amoureux. Discours amoureux. L'amour est-il la seule manière d'affoler le langage ? Et l'amour parle-t-il uniquement, justement, avec des structures du langage ? Ou est-ce que c'est l'abolition du langage, l'amour, pour vous, Eva Illouz ?
Je vais être obligée de ne pas être d'accord avec Roland Barthes.
Bah, tant
que
mieux,
j'admire pourtant beaucoup. Et je suis étonnée parce que Barthes, le grand sémioticien, celui qui nous a habitués à comprendre la culture en termes de codes visuels et linguistiques, est finalement pris au piège de la grande mythologie de l'amour. Il a lui-même écrit un autre livre qui s'appelle Mythologie, il n'a pas inclus l'amour, mais on aurait tout à fait pu mettre l'amour dans ce livre.
Parce qu'il y croyait.
Il y croyait, bien sûr. Effectivement, je suis d'accord, le sujet se sent un désordre, mais ce désordre est immédiatement médié par des codes culturels. Le sujet amoureux, l'homme par exemple, va se sentir obligé d'acheter des fleurs lorsqu'il va faire la cour à une femme. Il va écrire peut-être un poème, ou bien alors si il n'a pas...
Ça c'est pour les chanceuses.
Oui, ou pour une autre époque. Ou alors s'il n'a pas le capital culturel pour écrire un poème, il va acheter une carte qui contient déjà un poème d'amour. Il va emmener son amoureuse sur une plage, parce que la plage, a justement à partir du début du XXe siècle, devient associée, la mer et la marche sur la plage devient associée au moment romantique dont je parlais un peu avant. Donc on voit bien que quand on est dans la situation amoureuse, on est à la fois dans le désordre émotionnel dont Barthes parle, mais on est aussi profondément dans le code. On est dans le code culturel. Alors, quand je me rappelle, dans mon premier livre, qui s'appelle en anglais Consuming the Romantic Utopia, j'ai demandé à aux gens que j'ai interviewés de me donner des exemples de moments romantiques. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les gens qui ont un capital culturel répondent tous en me donnant un des grands clichés de l'amour. Par exemple, quelqu'un me dit un moment romantique pour moi, ça a été quand on s'est embrassé, ce sont des Américains, on s'est embrassé au pied de la Tour Eiffel et il commence à neiger. Et donc cet homme ne se rend même pas compte que, en fait, ce qu'il considère comme étant particulièrement romantique, c'est un des grands clichés de Hollywood. Alors, ça ne veut pas dire que nous sommes des poupées manipulées par la culture de masse. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis simplement en train de dire que nous sommes tous des créatures culturelles et que nous ressentons nos sentiments. Quand on les ressent, on a un besoin très fort de les exprimer selon des règles et des codes qui sont établis. Autrement, ce seraient des sentiments solipsistiques.
Pour être tous pareils quand on est amoureux, au fond.
Alors, on est différent, mais on est différent dans un réservoir commun de codes et d'images, oui.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical d'Eva Illouz, Abdelmalik, Ground Zero.
Time was I would criticize my neighbor if his religion was not the same as mine. But now my heart welcomes every form. It is a prairie for the gazelles and a cloister for monks. A temple for idols and a Kaaba for the pilgrim. The tables of the Torah and the book of the Quran. I follow the religion of love and whatever direction taken by love's camel. That is my religion and my faith. Come on. Becomes white as snow when I test the savors of I love you. In your garden there are many flowers, but only one water. Let me clad myself in your love like a tunic. Let me count off the rosary of my heart in your memory. Let me shout to the world the perfume of my desire. The cement of providence bind us like the bricks of the secret. Hey. copper, you made me gold, alchemist of my heart. You who knew how to raise my mistakes. The only believer is the one who loves the other as himself. Existence is a gift, but so few people find this amazing. Because the outfit it wears are never the same. Because appearances only deceive those who stop at them. I have drank the wine of love, and people were changed into brothers.
Merci pour ce choix d'Abdelmalik et Vaïlouz. Pourquoi ce choix? Je sais que vous êtes très attentive dans vos ouvrages, évidemment à la littérature que vous connaissez très bien. Vous faites de nombreuses références littéraires et philosophiques dans vos ouvrages, mais aussi aux chansons. Pourquoi celle-ci?
Par goût personnel, j'aime beaucoup Abdelmalik. Je pense qu'il s'inscrit dans une tradition, une très grande tradition de la chanson française. Pour moi, c'est l'héritier de Jacques Brel et de Claude Nougaro. Ensuite, j'ai pensé qu'il présentait dans cette chanson une idée élargie de l'amour. Une idée d'ailleurs qui rejoint un peu celle d'Albert Cohen. Mais ce qu'il nous propose, c'est l'idée de la fraternité. Albert Cohen pensait au couple et à l'amour vrai, ce qu'il appelait l'amour vrai, comme le lieu du sentiment de la fraternité. Et j'ai pensé aussi que peut-être aujourd'hui, la seule personne qui pourrait vraiment proposer cette idée de la fraternité, c'est un chanteur d'origine congolaise qui s'est converti à l'islam. Quand on me pose la question de savoir quel est l'amour qui me touche, alors c'est ce type d'amour. C'est ce type d'amour qui représente une définition plus ample, je dirais, de l'amour, qui englobe un peu plus le genre humain, qui d'ailleurs peut-être vient plus du sentiment religieux de la fraternité. C'est pour ça que Abdelmalik fait référence à des livres sacrés au début de sa chanson. Voilà.
Vous avez évoqué tout à l'heure, Eva Illouz, Emma Bovary de Gustave Flaubert. Emma Bovary a une idée de l'amour parce qu'elle a lu des livres qui parlaient d'amour. Aujourd'hui, nous avons tous et toutes une idée de l'amour. Mais cette idée de l'amour est-elle inscrite dans notre inconscient comme une idée qui ne nous appartient pas du tout? Aurions-nous tous et toutes une idée fausse de l'amour?
On n'a pas d'idée fausse dans le sens qu'on a des idées qui nous font appartenir à une société. Et je dirais que le couple est devenu aujourd'hui l'institution centrale qui remplace les communautés. Je pense que l'amour est devenu la grande utopie, si vous voulez, des modernes. Le couple et l'intimité amoureuse, parce que les structures traditionnelles se sont effondrées. Et dans la structure de vie moderne, c'est le couple qui remplacerait en quelque sorte les fonctions qui étaient, en tout cas certaines des fonctions qui étaient auparavant occupées par la communauté. Le couple, de plus, est aussi une structure pour faire l'expérience des loisirs. On choisit quelqu'un qui a des goûts communs, et je dirais que une grande partie de ce qu'on appelle avoir des goûts, un style de vie, est partagée avec quelqu'un d'autre. Et donc, dans le couple, si vous voulez, on peut trouver beaucoup de pratiques de consommation, mais on peut trouver aussi beaucoup de pratiques de consommation qui sont dirigées vers les couples. Par exemple, le tourisme ou les restaurants, faites attention, sont éminemment dirigés vers les couples.
Donc l'amour, c'est le grand carburant de la consommation aujourd'hui.
Oui, je dirais que le couple est un des grands carburants de la consommation, absolument. Oui, et donc on n'a pas en quelque sorte d'idée fausse, je dirais qu'on a une idée étroite et limitée de ce que c'est que l'amour, des attachements divers qu'on pourrait avoir à d'autres. Oui.
Vous avez écrit un livre qui s'intitule « Apicratie ». C'est un concept que vous avez inventé, « Apicratie », sous-titré « Comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies ». Et ces jours-ci sort ce livre passionnant qui s'intitule « Les marchandises émotionnelles ». Et vous nous expliquez que cette idée même de l'amour, plus le temps passe, plus le diktat d'un certain type d'amour nous est adressé, quelle que soit notre personnalité. Pouvez-vous expliquer comment et pourquoi ce diktat de l'amour est-il entré dans nos corps, dans notre psychisme, malgré nous ?
Alors, si on parle du livre, le livre s'attache à montrer que, à part l'amour, il y a beaucoup de marchandises émotionnelles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une marchandise émotionnelle ? C'est ce que j'appelle dans le livre une emodity. Donc, c'est deux mots que j'ai mis ensemble, emotional et commodity. Donc, une marchandise émotionnelle. Et quand on regarde l'histoire du capitalisme, on s'aperçoit que beaucoup de marchandises ont été promues pour les émotions qu'elles donnaient. Par exemple, dans les années 1910-1920, Thomas Edison, il y a l'industrie du disque qui commence, et un chercheur a l'idée de diviser des formes différentes de musique en fonction de leur impact émotionnel. Donc ça, c'est une marchandise émotionnelle puisqu'il s'agit de repenser la musique en termes de son effet émotionnel. On voit par exemple aussi que dans Hollywood, le film d'horreur commence. On n'avait pas du tout de recette, on n'avait pas du tout de genre au préalable de film d'horreur. Par exemple, le film la comédie romantique pouvait avoir des antécédents, mais pas le film d'horreur. Et on s'aperçoit que dans les années 40, Hollywood utilise de la recherche en marketing pour comprendre pourquoi est-ce que des films comme Dracula ou Frankenstein ont eu un tel succès, puisque Hollywood veut gagner de l'argent. Et on s'aperçoit que les spectateurs prennent plaisir à être terrifiés. Et donc on va commencer à développer ce genre cinématographique sur la base donc de l'émotion de l'horreur. C'est pour ça qu'on appelle ça un film d'horreur. Idem pour le Club Med, dont on pense aujourd'hui qu'il fait partie naturelle de notre paysage touristique. Le Club Med est né de la volonté de prodiguer, alors encore une fois, une nouvelle émotion, une émotion moderne, qui est l'émotion de la relaxation. La relaxation, ce n'est pas une émotion que les gens du XVIIIe siècle connaissent en tant que telle, c'est un mot qui vient de la médecine, et donc Gérard Blitz, qui est à l'origine du modèle du Club Med, veut promouvoir de la relaxation dans ces sites touristiques qu'il va créer. Il fait tout, donc il pense à la façon d'agencer le site touristique et de libérer les touristes des contraintes financières, par exemple, pour créer une atmosphère où on a plus de stress. Donc tout ça, ce sont des
gens, pas de circulation d'argent, exactement, et des occasions pour les hommes et les femmes de se rencontrer librement.
Ça sera un peu plus tard. Oui, exactement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la relaxation. C'est encore une fois une nouvelle émotion qui est en quelque sorte incluse dans la conception de cette nouvelle marchandise qui va être le site touristique de masse, puisque jusqu'alors, jusque dans les années 40, le tourisme était essentiellement une activité pour les bourgeois ou pour les aristocrates, et on concevait le tourisme ou bien pour des raisons médicales, c'est pour ça qu'on va dans les bains, hein, donc c'est ce qu'on appelle l'hydrothérapie, ou bien pour des raisons éducatives, c'est ce qu'on appelait le grand tour, où un aristocrate ou un grand bourgeois partait pendant longtemps dans des pays étrangers pour faire son éducation artistique, par exemple. Donc le tourisme de masse est né dans les années 40, et c'est avec ce tourisme de masse aussi qu'on commence à concevoir le tourisme émotionnel.
Et peut-on créer artificiellement l'émotion de l'amour aujourd'hui dans notre société?
Alors, ça c'est une très bonne question qui touche à la question de l'authenticité de nos émotions.
Dont vous parlez à l'intérieur de ce livre.
Oui, exactement.
On fabrique une fausse authenticité aujourd'hui dans nos sociétés.
Alors, je voudrais pas, encore une fois, parler de fausse authenticité, parce que quand on rentre dans une église ou dans une synagogue et qu'on est ému par la prière et par le chant, on prend appui sur des créations culturelles pour ressentir une véritable émotion. Je dirais que c'est un peu pareil quand on va dans un restaurant qui est luxueux et que ce restaurant nous donne un sentiment d'intimité avec notre partenaire qu'on n'avait pas forcément avant de rentrer dans le restaurant. Je dirais pas que ce sentiment d'intimité qu'on a est faux. Puisqu'il est de la même façon que l'extase religieuse ou le sentiment religieux, il a été induit par quelque chose qui est extérieur à nous. On ne peut pas ne pas prendre appui pour nos sentiments sur le monde extérieur. Les objets de consommation sont, si vous voulez, une forme, une façon d'organiser, de donner vie, de donner corps à nos sentiments et de les générer. Si vous voulez, je ne critiquerai pas la culture de consommation et son culte de l'amour sur la base d'une distinction entre sentiments authentiques et sentiments inauthentiques.
Vous êtes, Eva Illouz, une sociologue extrêmement sérieuse. Vous avez des arguments que vous développez à partir d'un corpus scientifique irréprochable, et en même temps, vous avez beaucoup d'humour. Vous analysez la culture populaire avec beaucoup d'attention. Vous avez consacré un livre à 50 nuances de Grey, un livre qui s'intitule Hard Romance, 50 nuances de Grey et nous. Et évidemment, comme vous êtes une fille moderne, vous intéressez à la manière dont aujourd'hui les couples se rencontrent. Et certains couples se rencontrent, évidemment, non pas naturellement dans l'espace social où ils travaillent ou l'espace familial, mais ils se rencontrent ainsi.
Alors là, il faut que je me calme, hein, parce qu'on va appeler un exorciste, sinon...
Oh, vas-y, arrache ta chemise maintenant.
Si vous n'aimez pas vos imperfections,
quelqu'un les aimera pour vous.
Venez avec vos amis à l'une des soirées mythiques en vous inscrivant sur notre nouvelle application.
Alors, ça c'est la pub pour Mythique. D'ailleurs, hier j'ai entendu une nouvelle publicité. Je ne sais pas si vous l'avez entendue, Eva Illouz, mais elle risque de vous intéresser. C'est une publicité qui s'adresse aux femmes et qui parle d'un préservatif. Or, à ce que je sache, les préservatifs, c'est pour les hommes. Mais cette publicité s'adresse aux femmes et nous rappelle, à nous, pauvres femmes, eh bien que 2 fois sur 3, nous n'éprouvons pas d'orgasme. Mais si on utilise le préservatif Intel, alors là, à tous les coups, 3 fois sur 3, on éprouvera des orgasmes. Donc c'est une publicité qui parle de nous, les femmes, qui est à l'usage des hommes. Mais reparlons de Mythique. Mythique, vous analysez cette manière de se rencontrer qui devient de plus en plus banale aujourd'hui, quelle que soit la latitude géographique où nous habitons, et vous expliquez comment une femme va se préparer à rencontrer un homme qu'elle n'a jamais vu par définition et qu'elle a rencontré par un site internet. ça va lui coûter beaucoup d'argent.
L'exemple dont vous parlez, je crois qu'ils se sont pas rencontrés par Internet, mais je veux bien en parler. Vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce qui était mensonger. Alors, la publicité, par définition, est mensongère. Et cette publicité, en particulier, l'est. Donc, on peut dire que, en tant que tel, les objets de consommation ne rendent pas nos rencontres plus ou moins fausses. Par contre, la publicité, elle, ment. On ne va pas nous aimer pour nos défauts. En général, les rencontres par Internet se soldent par une grande déception. Et en général, cette déception, on peut même souvent pas lui donner de nom. C'est simplement que quelque chose dans le physique de la personne ne nous plaît pas, quelque chose dans sa façon de parler ne nous plaît pas. Donc, je dirais que ces sites de rencontres, alors,
c'est la réduction de l'amour à la consommation, non?
Alors oui, alors ce qui est très intéressant dans ces sites de rencontres, c'est qu'ils nous placent véritablement en situation de marché. Puisque avant les sites internet, on n'a pas connaissance du marché des possibles. On ne sait pas. On peut rencontrer des hommes ou des femmes, on va les rencontrer en succession. On ne peut pas les voir tout ensemble. Par contre, dans un site, on voit littéralement tous les choix qui sont possibles et on les voit comme s'il s'agissait d'un buffet. Tout est sur la table. Et à ce moment-là, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on préfère, quels sont nos critères. Donc, ça nous met en situation véritablement de choix. Et or, le choix, je dirais, est la figure d'action capitaliste par excellence. Nous sommes des consommateurs en face d'un grand choix. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi par rapport à la phénoménologie de l'amour, c'est que très souvent, on tombe amoureux, on ne sait pas pourquoi on tombe amoureux. Il y a une sorte de reconnaissance qui est souvent une reconnaissance sociale, mais on n'arrive pas à l'articuler. Or, les sites vont vous obliger très souvent à spécifier vos critères. Et ce que vous allez vivre, en général, c'est que vous allez vous apercevoir que même quand vous rencontrez quelqu'un qui semble correspondre à tous vos critères, eh bien, vous n'arrivez pas à ressentir ce sentiment indéfinissable qui s'appelle l'amour. Donc, alors, il faut dire quand même que les couples se forment de plus en plus par les rencontres Internet. Il ne s'agit pas d'un échec total et ces sites de rencontres ne fonctionneraient pas s'il n'y avait pas des gens pour lesquels ça marchait. Mais il y en a beaucoup plus pour lesquels ça ne marche pas et pour lesquels cette expérience se solde par le sentiment du vide et le sentiment de l'échec, quand on n'est pas, par exemple, choisi.
Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Qu'en pensez-vous ?
La Saint-Valentin, la Saint-Valentin est un...
C'est un piège publicitaire.
C'est un piège consommatoire, oui, bien sûr. La Saint-Valentin, bon, c'est une fête qu'on fêtait au 19e siècle, mais les cadeaux qu'on s'y donnait restaient très modestes. Et surtout, c'était une fête qui était généralisée. On donnait des cadeaux à tous ceux qu'on aimait. La Saint-Valentin est devenue beaucoup plus spécialisée, donc c'est encore un exemple de ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que le couple est devenu une institution de consommation, puisque la signification de l'amour ou de l'amitié ou de l'attachement s'est spécialisée, s'est réduite à l'amoureux. Et je dirais donc que là, il s'agit d'une deuxième forme d'emodity, donc de marchandise émotionnelle. Ce sont toutes les marchandises émotionnelles qui visent à exprimer ou renforcer nos relations avec les autres. Vous avez l'industrie, ce que j'appelle l'industrie du petit cadeau. Alors l'industrie du petit cadeau, ce sont les tasses, ce sont les nounours, ce sont les crayons avec un cœur. C'est une industrie que les femmes consomment beaucoup et elles vont acheter des petits cadeaux à leurs amis, à leur mère, tout au long de l'année, mais en particulier pendant des fêtes qui sont devenues donc des fêtes à la fois émotionnelles et des fêtes de la consommation, comme la Saint-Valentin ou la fête des mères ou la fête des secrétaires.
Ben, merci beaucoup, Eva Illouz. Le temps passe trop vite avec vous. Je rappelle que vous avez publié beaucoup de livres très importants, notamment celui-ci qui s'intitule « Pourquoi l'amour fait mal ? L'expérience amoureuse dans la modernité ». Hard Romance, 50 nuances de Gray et nous. Et puis celui-ci qui sort ces jours-ci et qui est à la fois tragique et désopilant, mais qui ne me permet pas de ne pas croire en l'amour. Et il s'intitule « Les marchandises émotionnelles ». Il vient de paraître aux éditions Premier Parallèle. De l'amour, vous allez continuer à en entendre parler, puisque toute la nuit, durant toute la nuit, Augustin Trapenard et Vincent Lindon vont parler du véritable amour, évidemment.
Some folks heard like this before, illusions that they try to understand the questions of the man at home. Designs in the lonely days go by. Ready, na 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 na. For most of these dangers lie across another's hand. Please understand the changes that a boy has had to climb.
Merci à toutes et à tous. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Élise Christophe qui était à la technique ce soir. Merci à Anne-Sophie Dazard, Élodie Royer, Antoine Joubert qui ont préparé cette émission. Et merci à Lilian Allôme qui l'a réalisée. Après le prochain journal, soirée, nuit spéciale, intitulée « À nos amours » avec Vincent Lindon et Augustin Trapenard, c'est jusqu'à 2h du matin. Merci d'écouter France Inter.